Nous sommes à nouveau reconnaissants au Seigneur pour le privilège que nous avons d'être ici ce soir pour adorer et méditer à nouveau la parole de Dieu et laisser le Seigneur nous parler à nouveau. C'est encore le temps de la grâce. Dieu nous parle encore par sa parole. Nous pouvons encore répondre à ce qu'il dit, nous laisser corriger et être bénis par la richesse de sa grâce. Nous ne savons pas combien de temps encore, mais nous savons une chose, c'est que le temps est court, qu'il est mauvais, qu'il est sérieux, grave, et d'autre part qu'il est glorieux pour tous ceux qui sont appelés par Dieu, qu'ont reçu la grâce de lui et sont conduits par lui. Frère Rousse l'a déjà mentionné, je pars demain dans le courant de la matinée, et je visiterai la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines et Singapour. Avec la foi et la confiance que Dieu bénira son peuple et que certains seront encore appelés à sortir, à entendre sa parole et à être préparés pour le grand et glorieux jour du retour de Jésus-Christ. Lorsque la chorale a mentionné les hommes de Dieu dans le deuxième cantique, je n'ai pu m'empêcher de penser qu'ils devaient tous suivre leur chemin et aucun d'entre eux ne pouvait choisir son chemin. Ils avaient tous, pour ainsi dire, un propre chemin prescrit que Dieu leur a fait suivre. Et si nous regardons la fin, c'est toujours le plus important. Dieu le dit un jour quelque part, considérez leur fin. Et si l'on fait ainsi abstraction de toute la période et que l'on ne considère que le début et la fin, alors les deux étaient glorieux et la fin encore plus glorieuse que le début. Mais là où il n'y a pas de début, il ne peut y avoir de fin. Et donc, dans notre vie, Dieu doit faire un début, une suite, et par grâce, il l'achèvera. C'est bien sûr plus facile de chanter que de passer par ces choses. Lorsque notre Seigneur était dans le jardin de Gethsémani, luttant au point que sa sueur tombait à terre comme des gouttes de sang, il dit, « Oh, comme je suis angoissé !» Et comme je voudrais que cette coupe passe loin de moi, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais que se fasse la tienne. Et ainsi, nous aussi, nous ne pouvons pas dire autre chose que de dire que la volonté de Dieu doit être faite. Et parfois, Dieu conduit des chemins étranges que nous ne suivrions absolument pas nous-mêmes, que nous ne comprenons plus, et pourtant, nous approuvons intérieurement tout ce que Dieu fait et nous savons qu'il est puissant et fort pour aider et faire sortir tout cela glorieusement. En effet, nous n'avons pas entendu la parole d'un homme, mais celle de Dieu et les promesses de Dieu demeurent. Elles ne chancellent pas. Éternellement, c'est en saignant que Jésus a scellé ce qu'il promettait dans sa parole. Nous avons lu ici dans cette parole le psaume 105, au verset 8, il se souvient éternellement de son alliance de la parole qu'il a ordonnée pour 1000 générations. Le psaume 105, verset 8, verset 9, qu'il a conclu avec Abraham et du serment qu'il a fait à Isaac, verset 10, qu'il a confirmé à Jacob comme une loi, et à Israël comme une alliance éternelle. Nous remarquons que le dernier point est exactement le même que le premier. Une alliance conclue avec Abraham, un serment fait à Isaac, une charte confirmée à Jacob, mais tout Israël réintégré dans cette alliance. Et c'est cela qui est puissant et glorieux. Nous savons que Dieu a conclu l'alliance avec Abraham, l'a confirmé avec Isaac, l'a poursuivi avec Jacob. Et lorsqu'Israël a été appelé à l'existence, Moïse s'est levé et a fait sortir tout Israël jusqu'au mont Sinaï, jusqu'à la conclusion de l'alliance, jusqu'au jour où le même Dieu qui était apparu à Abraham et lui avait fait la promesse et avait conclu l'alliance avec lui. Ce même Dieu, le seul vrai Dieu qui existe, est descendu dans le feu sur le mont Sinaï et a fait don de cette alliance au peuple d'Israël par grâce. Ainsi, tout comme l'alliance a été faite à Abraham, elle a été faite plus tard à l'ensemble du peuple d'Israël. Entre-temps, il a prêté serment à Isaac. Jacob a reçu la confirmation des statuts et l'alliance a été établie pour Israël comme alliance éternelle. Nous savons que des promesses y étaient toujours liées. Tout ce que Dieu fait est lié à des promesses et ces promesses déclenchent la foi et la foi déclenche la réalisation des promesses. C'est cela qui est important. Dieu parle par sa parole, il fait des promesses, nous les entendons par la foi et la foi entraîne l'accomplissement des promesses. Puis, quelques versets plus loin, il est dit de Joseph ici, au verset 15, « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Puis, verset 16, « Lorsqu'il fit venir la famine dans le pays et qu'il brisa tout support de pain. » Verset 17, « Il avait déjà envoyé un homme devant eux, Joseph, qui avait été vendu comme esclave. » Verset 18, « On lui avait mis les pieds dans le bâton, on l'avait mis dans le fer. » Verset 19, « Jusqu'au jour où sa prophétie s'accomplit et où la parole du Seigneur le prouva être un homme vrai. » Verset 20, « Alors le roi envoya et le fit déchaîner le chef des peuples et le libéra. » Verset 21, il établit seigneur sur sa maison et gouverneur sur tous ses biens. Oui, c'est une parole merveilleuse. Dieu avait tourné son destin. Il a accompli sa parole. Il a accordé des bénédictions par grâce. C'est mon vœu le plus cher et je crois que nous ne portons tous qu'un seul désir dans notre cœur, celui de voir Dieu arriver à ses fins. Et si la fin est bonne, alors tout est bon. Alors là, la calomnie aura valu la peine, le fait d'être jeté dans la fosse aurait valu la peine, le fait d'être en prison aura valu la peine, alors tout sera oublié si à la fin Dieu tient sa promesse. S'il fait en sorte que la prophétie se réalise et que l'accomplissement soit là, alors tout est bon. Alors tout est bon. Et il en sera de même avec nous, pour nous, car Dieu est et reste fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Mais Dieu doit et va rester fidèle à sa parole. Je voudrais aujourd'hui lire très brièvement un passage des Saintes Écritures, puis dans la foulée de l'ouverture des sceaux, un sermon de Frère Branham. Je pense que certains de ces hommes de Dieu y sont traités et nous ne pouvons qu'apprendre, car ce que Dieu a fait avec eux, il veut le faire avec toi et avec moi. Les Saintes Écritures sont là pour que nous en tirions des leçons. Dans Matthieu chapitre 12 du verset 15, il est dit, Matthieu 12 du verset 15, Jésus, l'ayant appris, se retira de là-bas. Et il y en n'eut beaucoup qui le suivirent et qu'il guérit tous. Verset 16, mais à qui il donna l'ordre strict de garder le silence à son sujet. Verset 17, ainsi devait s'accomplir la parole du prophète Ésaïe qui dit, verset 18, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme, mon cœur a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice au peuple des nations. Verset 19, il ne se disputera pas, il ne criera pas et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le conduit plié, il n'éteindra pas la mèche fumante jusqu'à ce qu'il ait exécuté victorieusement le droit. Et en son nom, le verset 21, les nations païennes mettront leur espérance. Lorsque nous pensons à cela, ou lorsque je pense à sortir pour apporter la parole du Seigneur aux nations, un tel passage biblique est un très grand réconfort. Le Seigneur est venu faire connaître le droit sur cette terre pour l'offrir aux hommes. Et il est dit ici, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon cœur a mis toute son affection, a trouvé tout son bon plaisir. Tout son bon plaisir. Nous savons que Jésus-Christ a également été décrit comme serviteur. Vous pouvez le lire dans Ésaïe 42. Vous pouvez le lire dans les Actes des Apôtres. C'est probablement le chapitre 4 lorsque l'Église primitive priait. Ils se sont également adressés à lui sous ce nom et ont demandé que le Seigneur étende son bras. Ce doit être dans Actes 4. Acte 4, verset 29. Peut-être déjà du verset 27. Oui, c'est en vérité contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, que se sont ligués dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les païens et les foules d'Israël. Verset 28, afin d'accomplir tout ce que ta main et ton conseil ont décidé d'avance de faire. Verset 29, et maintenant, Seigneur, regarde leurs menaces et donne à tes serviteurs la puissance d'annoncer ta parole avec toute la hardise possible. Verset 30, se faisant, étends ta main pour opérer des guérisons et que des signes et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. Comme nous l'avons déjà dit, nous pourrions ici nous référer tout particulièrement au prophète Ésaïe pour constater de quelle manière la prophétie a montré Jésus dans son ministère de serviteur. Et il disait, alors je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et il était ce serviteur de Dieu en qui Dieu avait mis toute sa complaisance et donc en toi et en moi. Il était le Fils de Dieu afin que toi et moi puissions devenir tes fils de Dieu. Il était le souverain sacrificateur pour que toi et moi puissions devenir sacrificateurs. Il était roi pour que nous puissions être rois. Il est devenu tout, d'abord pour que nous puissions le devenir par grâce, car en Christ, Dieu a fait de nous ce que nous étions destinés à être de toute éternité. C'est pourquoi cette parole et cette magnifique formulation, Matthieu 12, verset 17, ainsi devait s'accomplir la parole du prophète Ésaïe qui dit, verset 18, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon cœur a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice au nation. Il ne, verset 19. Il ne se disputera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Comme il était, ainsi seront tous ses serviteurs. Pas de cris, pas de querelles, pas de disputes, mais la proclamation du glorieux évangile, la proclamation de la glorieuse promesse de Dieu, la proclamation de la glorieuse parole que Dieu a révélée. On n'a jamais entendu le Seigneur crier ou se battre, comme il est dit ici, il ne criera pas. Et personne n'entendra sa voix dans les rues. Beaucoup l'ont entendu prêcher, mais personne ne l'a entendu crier. Personne ne l'a surpris en train de se quereller. Non. Il a simplement dit, il est écrit, il s'est défendu avec la parole de Dieu. Verset 19, il ne se disputera pas et ne criera pas. Vous savez que là où il y a des querelles, il y a bientôt des cris. Le premier, le deuxième, et au deuxième, et ensuite, on peut s'attendre à ce que cela aille encore plus loin jusqu'à l'infini. Au verset 19, il ne se disputera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Verset 20, il ne brisera pas le conduit plié, il n'éteindra pas la mèche fumante jusqu'à ce qu'il ait exécuté victorieusement le droit. Ce mot victorieux fait tout simplement partie de l'ensemble. Il est le vainqueur de Golgotha et il mène à sa cause victorieusement. Il mène sa cause, pardon, victorieusement. Il la mène jusqu'au bout et il ne s'arrêtera pas tant que tous ses ennemis n'auront pas été mis sous son marchepied et que son droit et sa cause n'auront pas été victorieux par grâce. Nous le croyons de tout notre cœur. Et puis ainsi, aussi cette phrase magnifique au verset 21. Et en son nom, les nations païennes mettront leur espérance. Déjà là, je ne veux pas du tout entrer dans les choses de l'enseignement, mais le Seigneur Jésus n'a-t-il pas justement prédit, ne prenez pas le chemin des païens, je vous envoie seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 10, du verset 5 à 6. Vous pouvez le lire au chapitre 10, et là, il dit, en son nom, les nations païennes mettront leur espérance. Pas de contradiction. Chaque chose en son temps. D'abord, le peuple d'Israël, puis la conclusion avec eux, puis les nations, la conclusion avec elles, puis retour au peuple d'Israël. Tout est classé et tout se déroule selon le glorieux plan de salut de Dieu. C'est aussi ce que Jacques a dit dans Acte 15. Et c'est exactement ce qu'il a dit ici. C'est probablement dans Acte 15 que ses frères se sont réunis. Oui, Acte 15 du verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, hommes, frères, écoutez-moi. Simon a rapporté comment Dieu lui-même a d'abord cherché à gagner à son nom un peuple d'entre les païens. Verset 15. Et les paroles des prophètes concordent avec cela, car il est écrit. Verset 16. Après cela, je reviendrai et je rebâtirai la tente de David qui est tombée en ruine. J'en relèverai les ruines et je la ferai moi-même renaître. N'est-ce pas merveilleux que ces hommes de Dieu aient été ainsi conduits, éclairés par l'Esprit, qu'ils aient toujours pu repartir l'histoire du salut comme il convenait à Dieu. Verset 17. Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur et aussi toutes les nations qui m'appartiennent en propre comme mon peuple, dit le Seigneur, qui accomplit ces choses. Non seulement il a parlé, mais c'est lui qui l'accomplit. Les nations mettront leur espérance en lui. Jacques se leva et dit, tous les prophètes sont d'accord sur ce point. Dieu rassemblerait un peuple dans les nations, puis il se retournerait et rebâtirait le tabernacle d'Israël la maison de David. Nous voyons tout cela s'accomplir de manière miraculeuse sous nos yeux. Voici verset 17. « Même toutes les nations qui m'appartiennent en propre comme mon peuple, dit le Seigneur, qui accomplit ces choses. » La deuxième partie du verset 17. « Et nous voulons faire partie de ce que Dieu accomplit. Nous ne voulons pas être inventés dans nos propres voix, dans nos propres actions, dans nos propres pensées. Non, nous voulons faire partie du plan de salut de Dieu. Nous voulons nous laisser insérer et trouver notre place par la grâce de notre Dieu, afin que nous puissions nous aussi faire partie de ceux qui parviendront à la perfection. Ensuite, il n'y a plus que ce très court verset, le verset 18, comme il a été connu de toute éternité. De toute éternité. Le conseil de Dieu n'a pas été donné il y a 4, 5 ou 6 000 ans, mais de toute éternité. Comme il a été connu de toute éternité. De toute éternité, Dieu nous a choisis. De toute éternité, il a déjà vu Abraham, il a vu Isaac et Jacob, il a vu la conclusion de l'Alliance, il a vu tout le déroulement de l'histoire de l'humanité. Il a fait connaître dans sa parole jusqu'au jugement dernier, jusqu'au nouveau ciel, à la nouvelle terre, avant le règne de 1000 ans. Tout cela fait connaître dans sa parole. Si nous regardons dans les Saintes Écritures, nous ne pouvons que nous affermir dans la foi afin de faire confiance à Dieu de manière nouvelle, pleine et entière. Quand le ciel et la terre brûleront, quand les collines et les montagnes disparaîtront, celui qui croira trouvera que sa parole demeure éternellement vraie. Les apôtres n'ont pas parlé d'eux-mêmes et je m'en réjouis de plus en plus, mais ils sont toujours revenus à la parole de Dieu. Et si l'on se donne la peine, que ce soit Paul dans les épîtres aux Romains en particulier et dans l'épître aux Hébreux, ou que ce soit les épîtres qui se réfèrent aux prophètes d'une manière particulière. Ici, je me réjouis à propos de Jacques, qu'il soit allé si merveilleusement dans l'Écriture sainte, dans ce que les prophètes avaient prédit à l'avance. Oui, ce que Dieu a annoncé par leur bouche. Et nous en sommes reconnaissants de tout cœur. Le verset 17, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations qui m'appartiennent en propre, comme mon peuple, dit le Seigneur, qui accomplit ceci au verset 18, comme cela a été annoncé de toute éternité. C'est en cela que nous pouvons mettre toute notre espérance, toute notre confiance, et nous ne serons pas confondus. Nous avons lu ici, il ne brisera pas le conduit plié. Matthieu 12, verset 3, verset 20. Il n'éteindra pas la mèche fumante jusqu'à ce qu'il ait exécuté virtueusement le droit. Oui, ce qu'il a décidé de toute éternité, il exécute. Et pas seulement en s'accrochant et en se débattant, mais il l'accomplit avec gloire et une merveilleuse victoire à l'honneur et à la louange de son nom glorieux. Ensuite, ici dans Matthieu chapitre 9, cette parole, si l'on pense à la moisson et à la proclamation de l'évangile, je veux dire maintenant spirituellement parlant à la moisson, il est écrit ici dans Matthieu 9 au verset 36. Mais à la vue des foules, il fut saisi d'une profonde compassion pour elles, parce qu'elles étaient abattues et négligées comme des brebis qui n'ont pas de berger. Au verset 37, il dit alors à ses disciples, la moisson est grande, mais le nombre des ouvriers est petit. Verset 38, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans son champ de moisson. Remarquez-vous ce que disent les Écritures. Il fut saisi d'une profonde compassion. Il a vu les foules. Puis il s'est adressé aux disciples, leur a présenté la moisson et leur a dit, verset 37, la moisson est grande, mais le nombre des ouvriers est petit. Verset 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans son champ de moisson. Savez-vous ce qui s'est passé juste après? Avant même qu'ils s'en rendent compte, il les avait déjà appelés par leur nom et les avait envoyés dans la moisson. Ils n'ont pas eu besoin de prier longtemps, c'est tout de suite dit ici dans le verset suivant. Chapitre 10, verset 1, il appela ensuite ses 12 disciples et leur donna pouvoir sur les esprits impurs, de sorte qu'ils puissent les chasser et guérir toute maladie et toute infirmité. Puis, ils sont énumérés. Oh! Ah, quand l'heure de Dieu est venue, quand c'est le Seigneur qui est sur le point de faire quelque chose, nous n'avons plus besoin d'attendre jusqu'à là. Il se peut que nous devions parfois attendre assez longtemps que notre patience soit presque à tout à bout. Mais lorsque l'heure de Dieu sonne, l'attente est terminée. C'est alors qu'il commence à agir, qu'il commence à appeler, qu'il commence à envoyer. Oui, alors il révèle sa puissance et sa gloire. Alors plus personne ne peut l'arrêter. Puisse Dieu nous fortifier dans la foi et nous aider tous. Il y aurait bien des choses à lire dans cette prédication, comme je l'ai dit, c'est la suite. Et elle s'intitule « Paul, un prisonnier de Christ ». Un sermon que nous connaissons tous bien. Ce Paul a dû écrire à Philémon, je crois que c'est lui à qui il a écrit. « Moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, j'envoie mes salutations au bien-aimé Philémon, notre collaborateur, et ainsi de suite. » Il se définit lui-même comme un prisonnier. Vous connaissez la prédication. Ici, frère Branham demande déjà directement dans la prière. Pardonne-nous nos péchés. Châtie-nous avec ton esprit et ta parole. Seigneur, afin que nous soyons éduqués pour être des serviteurs obéissants, des serviteurs dociles dans la volonté de Dieu, éduqués dans la volonté de Dieu. Je suis tout à fait honnête, je ne savais pas que j'allais lire ce passage-là, car je ne connaissais absolument pas le contexte. Voici maintenant le mot serviteur. Seigneur, afin que nous soyons des serviteurs obéissants, formés pour être des serviteurs obéissants à ta volonté. Nous voulons y penser et essayer d'imaginer dans nos cœurs ce que faisaient les premiers chrétiens. Quel genre de personnes nous rencontrerions si nous rencontrions ceux qui étaient en contact personnel avec toi. Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit dans cette prière. C'est une idée, une pensée magnifique d'ailleurs. Si nous avions rencontré des gens qui avaient été en contact avec le Seigneur Jésus lorsqu'il marchait sur la terre, quel genre de personnes aurions-nous rencontré? Et frère Branham dit ici, comme leurs visages ont dû rayonner de joie et de foi et de joie. Oui. Mais alors, nous arrivons à la question la plus sérieuse. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Les personnes qui ont marché avec lui à l'époque, autrefois, devraient être exactement les mêmes que celles qui marchent avec lui aujourd'hui et vice-versa. Et en fait, il devrait s'agir à 100% de la même chose. Et nous revenons au début, et dans la foi, nous pouvons effectivement compter sur le fait qu'il en sera ainsi que nous pourrons devenir des hommes qui sont avec le Seigneur, qui ont un lien avec lui, comme il est dit ici, qui ont été en contact personnel avec toi. Comme leurs visages ont dû rayonner de foi et de joie. Oh, je dois avoir honte. C'est vrai. As-tu dit Alléluia? J'espère que non, mon frère, mais tu as vraiment réussi à le faire. Oui, mais peu importe. Il est dit ici, comme leurs visages ont dû rayonner de foi et de joie. Oui, je le pense ainsi. Je le pense aussi. Je crois que les gens qui ont été appelés par le Seigneur ont vécu quelque chose que personne n'a pu leur enlever. On a pu le prendre et bien le prendre. On a pu tout leur prendre. Et il est arrivé un jour que les disciples, peut-être même Pierre, ont dit, « Seigneur, qu'allons-nous devenir? Nous avons en effet tout quitté et tout ce que nous avions sur terre. Que va-t-il nous arriver maintenant ?» Et le Seigneur lui a déjà dit que tout lui sera donné dans cette vie et aussi dans la vie à venir. Ceux qui étaient en contact personnel avec lui ont dû voir leur visage rayonner de foi et de joie. Vous savez que je suis le dernier à pouvoir le lire ici, mais ce qui est écrit ici, je dois le lire. Que cela me convienne ou non, que mon visage rayonne ou non, je me réjouis dans mon cœur et je sais, comme nous l'avons lu, que Dieu fera triompher sa cause et la fera sortir, la manifestera par grâce. Il est dit plus tard ici, comment leur vie doit-elle avoir été la parole vivante de Dieu? Des lettres réelles, écrites, lues par tous les hommes, alors qu'ils marchaient parmi le peuple. Ô Dieu, accorde-le encore une fois. Ici, dans ce « encore une fois », quelque chose de très puissant s'exprime. Frère Branham a brièvement mentionné ici les premiers chrétiens. Quel genre de personnes étaient-ils? Ils étaient en contact, en communion avec le Seigneur, comme ils devaient rayonner, comme leur foi devait être là, et ensuite leur vie, que la parole de Dieu était vécue à travers eux, et ainsi de suite. Et ensuite, on dit, ô Dieu, accorde-le encore une fois. Que ce encore une fois nous aille droit au cœur, et alors tout le reste viendra aussi. Mais il est vrai, frères et sœurs, que Dieu doit d'abord nous donner un désir avant de pouvoir l'assouvir. Et cela, nous devons le comprendre. Si nous n'avons pas de désir pour ces choses, nous ne les aurons jamais. Nous pouvons vieillir comme Methusalem, rien ne viendra, à moins que nous n'ayons un désir et que nous le demandions à Dieu avec foi. Alors, il le fera et pas avant. Et je veux dire que ces choses doivent nous toucher au cœur, mais au cœur, moi, toi, nous tous. Mais pas que nous soyons découragés, mais comme il est dit ici, comme il a été dit ici dans cette prière. Ô Dieu, accorde-le encore une fois. Accorde-nous encore une fois d'avoir sur terre des personnes qui sont en communion avec Jésus-Christ. Une communion personnelle qui vit avec lui, qui marche avec lui, par la vie et le service de laquelle sa parole peut être confirmée. Des personnes qui sont là, selon le cœur de Dieu, et qui peuvent être utilisées par lui. Puis il se poursuivit. Et quand les choses qu'il a indiqué par prophétie et dont il a dit qu'il les ferait se produisent, ensuite de manière parfaite, exactement comme il a dit, nous restons quand même assis là, en quelque sorte inertes, comme si nous nous demandions si cela pouvait me concerner, si cela pouvait concerner l'Église, ou si je suis vraiment inclus. Je pense que dimanche matin, je vais essayer de parler de certains de ces points principaux, ce qui pourrait nous éclairer un peu. La pensée est que la prophétie biblique a été annoncée et qu'elle s'est accomplie, et pourtant les gens étaient assis là, nous sommes assis là d'une certaine manière, comme si nous nous demandions si cela nous concernait. Nous sommes assis, nous observons tout et nous continuons à nous asseoir. Rien ne semble plus nous saisir, rien ne semble plus nous saisir, et c'est ma détresse, et je veux dire ta détresse aussi. Nous avons en effet entendu ces derniers jours comment Dieu a béni, sauvé, guéri, libéré, délivré. Oui, qui est encore bouleversé? Qui a remercié Dieu pour cela? Qui s'en est même souvenu? Nous acceptons toutes les bénédictions en pensant, oh très bien, et nous reprenons le cours normal des choses. Nous devons comprendre que toutes ces choses ne vont pas de soi, mais que nous devons en remercier le Seigneur. Il est donc dit ici, une autre expression que nous devrions apporter ici est la suivante. Vous voyez, quand on se moque de l'Église, en réalité, on ne se moque pas de l'Église, mais de Jésus. Pourquoi me persécutes-tu? Comment Paul a-t-il pu croire, avec toute son intelligence, que ce groupe qu'il persécutait était précisément le Dieu qu'il prétendait servir? Vous connaissez le contexte. Saul était sur le chemin de Damas. Il persécutait les croyants et le Seigneur lui est apparu et a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il persécutait pourtant les enfants de Dieu. Le Seigneur était pourtant dans la gloire, mais l'adresse était « Pourquoi me persécutes-tu ? » Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces petits, de ces plus petits qui croient en moi, c'est à moi que vous l'avez fait. Christ a fait sa demeure dans nos cœurs par la foi. Ce que tu fais à un croyant, c'est à Christ que tu le fais. Et ne nous trompons pas ici dans cette prédication. Frère Branham a clarifié les choses de cette manière. Il souligne « Pourquoi me persécutes-tu ? » C'est ce que le Seigneur avait dit à Saul. Et Saul, bien sûr, était fini. Il s'est dit, attendez, attends, s'il vous plaît. Qui est-ce que je persécute? Quelqu'un là-haut ou les gens ici-bas? Il poursuivait les gens d'ici. Et en même temps, le Seigneur qui est là-haut, qui a racheté ici-bas et qui a payé son sang, qui a payé de son sang en rançon pour eux et qui les a vraiment appelés à sortir et les a aussi bénis. Et puis, on continue à lire. Ici, je dois me dépêcher. Maintenant, vous dites, frère Branham, vous réfutez ce que vous avez dit dimanche. Vous, que tu as attendu tout ce temps. Rappelez-vous, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé là-bas, sur le chemin, et m'a dit, je te renvoie parmi les malades et les affligés. C'est l'obéissance à l'Esprit Saint. Certes, je ne suis pas parti avant qu'il ne m'ordonne de le faire. J'ai attendu le « ainsi parle le Seigneur jusqu'à ce que je reçoive le « ainsi parle le Seigneur ». Maintenant, voyez, c'est différent. C'est là que réside la différence. Et puis, il continue concernant Paul, sans doute. Puis, il dit, considérons le caractère de Moïse. Il est né libérateur et il savait qu'il était né libérateur. Avant de parler de Moïse, je voudrais faire cette déclaration. Dieu doit toujours prendre un homme qui veut sincèrement le servir pour en faire son prisonnier. Un homme doit abandonner toute ambition qu'il a, tout ce qu'il est, tout sa vie, son âme, son corps, sa volonté, ses aspirations et tout le reste. Et devenir complètement prisonnier de Christ, qui est la parole pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Ici, on additionne un grand nombre de choses. Et je veux dire que cela ne concerne certainement pas seulement les personnes qui font la prédication, mais cela nous concerne tous. Au fond, nous formons le corps du Seigneur et nous ne pouvons pas nous exclure et dire « cette affaire ne me concerne pas ». Non, nous faisons tous partie de la chose. Comment pourrait-elle ne pas être votre affaire si vous êtes la chose elle-même? Vous êtes l'œuvre créée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Éphésiens 2:10, nous ne sommes pas seulement une œuvre, nous sommes son œuvre. Et son œuvre, son ouvrage, son œuvre est en nous et nous sommes en lui et il est en nous. Nous sommes devenus une partie de la parole, nous sommes devenus une partie de lui-même. Et ici, il nous est dit comment cela doit se passer pour devenir un prisonnier de Christ. Il est dit ici, Dieu est à l'affût des prisonniers. C'est ce qu'il a toujours fait. Vous pouvez le suivre tout au long des Écritures. Un homme doit devenir un prisonnier de Christ par rapport à tout le reste. C'est une parole très sérieuse, hein, mais elle me touche plus que vous tous. Maintenant, voici ce qui se passe. Vous savez que Dieu a appelé Moïse. Frère Branham ici conduit et dit que lui-même, Frère Branham, il a aussi fait des choses un peu trop tôt. Il vient ici dans ses campagnes de guérison et ainsi de suite. Et maintenant, c'est comme ça. Regardez ce que nous avons fait. Nous avons tué un Égyptien, c'est vrai. C'est Moïse qui l'a fait. Vous le savez, vous tous, n'est-ce pas? Nous avons essayé. Nous nous sommes efforcés. Nous avons payé. Nous avons peiné toute la nuit dans des réunions de prière jusqu'à ce que notre voix soit enrouillée et que nous essayons de faire sortir quelque chose, d'extraire quelque chose et de faire toutes sortes de choses. Et nous avons constaté que c'était un échec total. Nous devons retourner dans le désert. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ici, Frère Branham explique de Moïse qu'il est allé pour faire la délivrance. Il a tué l'Égyptien et l'a enterré très brièvement. Il l'a enterré dans le sable, puis il est parti. Et maintenant, il compare déjà son service d'autrefois et à plus forte raison ce qui se passe aujourd'hui. Il dit, qu'avons-nous ou qu'est-il resté? Nous avons essayé, nous sommes efforcés, nous avons payé, nous avons peiné toute la nuit dans des réunions de prière jusqu'à ce que notre voix soit enrouillée et que nous essayons de produire quelque chose, etc. Oui. Et ensuite, il constate que c'est un échec total. Total. Quoi? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, c'est vrai. Nous pouvons lutter et supplier, prier tant que nous voulons, jusqu'à ce que notre voix échoue. Et alors, nous avons aussi nous-mêmes échoué, nous-mêmes. À moins que nous ne nous laissions mettre nous-mêmes en totale conformité d'abord avec les paroles de Dieu. La seule façon d'être béni par Dieu est d'être en accord total avec ses paroles. Il n'y a pas d'autre moyen d'agir pour l'Esprit de Dieu. Et il en va de même pour les paroles de Dieu. La parole de Dieu et l'action de Dieu sont liées. Accorde-moi avec tes paroles afin que ton esprit puisse être efficace à travers moi en accord avec ta parole. Croyez-moi, Dieu veut se manifester, Dieu veut se faire connaître. Il est un Dieu vivant, un Dieu véritable. Il a conclu son alliance, prêté serment et établi les statuts et tout, comme nous l'avons entendu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous avons également vu tout cela dans le Nouveau Testament. Mais il semble que Dieu doive nous aider. Ici, Frère Branham dit, je cite, « Voyez, l'homme mort, puant, était la seule chose qu'il pouvait indiquer comme étant le succès d'une formation de 40 ans. Un Égyptien puant, mort et décomposé qui gisait là-bas. » Et puis il dit, « Voilà, à peu près ce qui se passe ce soir, la seule chose que nous pouvons montrer du doigt après ce soi-disant réveil qui est passé par là, c'est un tas puant de membres de l'Église qui n'en savent pas plus sur Dieu qu'un tonton d'une nuit égyptienne. Vous connaissez le langage grossier de Frère Branham. C'était un homme de Dieu. Il était en fait un prophète de Dieu. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, vous devez le savoir, il était l'un des plus grands hommes de Dieu à avoir parcouru cette terre avec un mandat direct, un appel comme presque personne n'en a eu sur cette terre. Et puis il dit ici qu'après tout, il ne reste que cela. Je ne voudrais presque pas le relire une seule fois, mais c'est vraiment comme ça, car c'est ainsi que la bouche du Seigneur l'a exprimé par sa bouche. Et c'est pourquoi il fallait qu'il y ait une fin pour qu'un nouveau commencement puisse avoir lieu. Un commencement avec Dieu. Un commencement si profond qu'il mettra ta vie et la mienne en accord avec Dieu, qu'il nous mettra tous en accord avec sa parole, que nous marcherons au pas ensemble, que nous croirons ensemble la même chose, que nous vivrons la même chose, que nous irons de l'avant avec notre Dieu. Nous ne devons pas nous arrêter là et dire oui, eh bien, il ne reste plus rien. Ce n'était pas la fin. Après cela, le peuple d'Israël a finalement relevé un défi glorieux, car le seul Égyptien mort n'était qu'une période intermédiaire. C'était la fin des 41 ans et ensuite venaient les 40 ans suivants. Nous pouvons donc être tranquilles. C'était la mi-temps et c'est pendant la mi-temps que les choses se sont passées comme nous le lisons ici. Mais ce n'est qu'après que le jeu a vraiment démarré que les buts ont été marqués et que la bénédiction de Dieu s'est manifestée. Il est dit ici, finalement, il ne pouvait même plus parler. Un prisonnier choisi, un prophète choisi, comme Paul l'avait été. Moïse était le libérateur choisi. Et Dieu avait enfin son sujet élu, comme un prisonnier. Oh, alléluia. Oui, c'est ça la chose. Ce soir, je n'ai pas d'autre souhait que de voir Dieu faire de moi et de toi de tels prisonniers. Que nous devions passer par différentes choses, c'est évident. Mais que ces choses aient un sens et un but, c'est tout aussi clair. Elles ne peuvent pas être sans signification. Dieu ne permettra absolument rien à moins que cela n'ait une signification, un sens et un but dans ta vie et dans la mienne. Il est dit ici, mais avant que sa vision ne s'accomplisse pleinement, il devait devenir un prisonnier Il parle de Joseph ici. Puis il est devenu un souverain. Lorsqu'il est sorti de sa prison et est devenu un tel prisonnier de la parole qu'il ne pouvait plus dire que ce que Dieu mettait dans sa bouche, c'est alors que Dieu a agi à travers lui. Et c'est exactement ce que nous voulons. Pas de longue prédication, mais parler de ce que Dieu veut dire maintenant. Que nous laissions Dieu lui-même parler à travers nous pour que Dieu puisse agir ensuite. Si nous ne laissons pas Dieu parler, nous ne laissons pas non plus Dieu agir. Quand nous parlons, nous agissons aussi nous-mêmes. Quand Dieu parle, Dieu pourra ensuite agir. Alors c'est lui qui agit. C'est aussi simple que les tables de multiplication. Et donc, nous devons effectivement nous mettre à la disposition du Seigneur et dire « Seigneur ». Et nous l'avons déjà entendu de Joseph dans le psaume 105. Il a été lu. Frère Branham, il vient dans cette prédication. Et qu'est-ce que c'était? Il a dû suivre des chemins si difficiles pour être finalement béni par le Seigneur. Et tout le peuple est venu. Et il a distribué la nourriture. Et croyez-moi, il ne se sentait pas du tout exalté. Il savait que Dieu l'avait fait ainsi, que ce n'était pas son mérite. Et il l'a remercié pour cela, rien de plus. Et c'est ainsi que nous le ferons, nous aussi par grâce. Je cite. Ainsi le prisonnier, le bien-aimé de Christ, est revêtu de la puissance par son roi, qui est Christ. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui dit à cette montagne, élève-toi, et qui ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit s'accomplira, celui-là le verra s'accomplir, le verra arriver. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, si vous êtes soumis à moi, si vous êtes sous un même joug avec moi, et que lui et sa parole sont la même chose. Oui, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole s'est faite chair et a fait sa demeure parmi nous, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous demeurez en moi, voyez, demeurez en moi. Notez qu'avant que Joseph sorte, il devait être amené et, pardon, mais il y a vraiment le mot ici, être rasé. Certaines choses devaient être rasées avant qu'il puisse rencontrer son roi. Et puis, il continue à dire ici, un instant, oui, pour que la puissance du Christ soit manifestée, il devait d'abord être rasé, puis présenté. Oui, bien sûr, d'abord se raser et ensuite se présenter. Mais vous savez comment Dieu fait. Dieu le fait parfois plutôt avec une lame non tranchante. Mais comme dit-on, parfois il les amène dans le désert pour faire cela, pour les raser. Ensuite, il fait ressortir les oints pour qu'ils accomplissent le but auquel il les a destinés. Voyez-vous ce que je veux dire? Mon frère, nous sommes à la fin des temps. Donc, Dieu veut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut en prendre un, puis le mettre dans le désert, et il peut le raser. En ce moment, je ne veux pas ici me raser, mais ce que Dieu est sur le point de faire, nous ne le savons pas. Non. Nous prenons des résolutions et parfois nous ne savons pas exactement ce que Dieu a l'intention de faire. Mais avant que nous nous en rendions compte, il se révélera et confirmera sa parole. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, avant que Dieu puisse répondre, il faut qu'une faim naisse en nous, de sorte que nous ayons un désir. Je ne parle pas ici de hurler toute la nuit, je n'en parle même pas, mais un désir de Dieu, qu'il puisse se manifester. Et c'est là que j'en viens à la parole qui m'a rappelé Matthieu 10 ou Matthieu 9. Voici ce que Dieu va faire, à mon avis. Et après, il est écrit, doit faire et faire dans les derniers jours, trouver un instrument pour la moisson. Il doit trouver un outil pour battre l'air avant avec. Chaque agriculteur sait et doit avoir l'outil pour cela lorsqu'il commence sa récolte. Certes, il doit avoir une faux tranchante ou quelque chose d'autre, et ensuite une machine pour battre le grain. La récolte est mûre. Quand j'ai lu que Dieu devait faire quelque chose au moment de la moisson, qu'il devait avoir quelque chose pour moissonner, c'est devenu très clair pour moi. C'est très clair pour moi. Et nous parlons ici d'une moisson spirituelle. Nous parlons du royaume de Dieu. Notre Seigneur a dit, quand il a vu les foules, la moisson est grande, la moisson est mûre. Peut-être, peu sont les ouvriers. Que peut-on faire? Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et l'instant d'après, c'était déjà fait. Et c'est là que Frère Branham poursuit. Je veux me donner à Dieu pour être un instrument de battage dans ces derniers jours. Ce n'est pas si facile. Mais Dieu a déjà préparé toutes les choses depuis longtemps, y compris les moissonneuses, batteuses et tout ce qui va avec. Il a déjà préparé tout cela. Et si, entre-temps, nous devons passer par tout ce qui est possible et impossible, si on est grondé jusqu'à être rendu méconnaissable, qu'on ne comprend absolument plus ce qui se passe encore sur Terre. Mais alors, on sait ce qui se passe, rien d'autre que le diable, n'est-ce pas? Et tant que le diable sera en liberté, beaucoup d'autres choses le seront aussi. Mais par la grâce de notre Dieu, nous ferons confiance au Seigneur, qu'il mette dans ton cœur et dans le mien ce que nous avons entendu ce soir. Le Seigneur appelle son peuple à sortir des nations, des peuples, avant de se retourner et de rebâtir la tente de David en ruine. Comme il l'avait décidé avant la fondation du monde, il le fait sortir. Il le fait maintenant victorieusement. Et nous avons entendu ici, dans cette prédication, que Frère Branham a rappelé les premiers chrétiens et a dit, ô Dieu, que nous aussi, nous deviendrons des gens comme il l'était au début, des gens qui marchaient avec le Seigneur, qui ont vécu tout cela, qui ont ensuite aussi vécu sa crucifixion, sa résurrection et sa montée au ciel. Il s'agissait de personnes que nous aurions du mal à imaginer, mais c'était des gens comme vous et moi, avec la foi et la certitude dans leur cœur que Dieu avait fait de grandes choses. Ils ont vu, ils ont entendu, nous aussi nous voyons, nous entendons et nous ferons l'expérience avec Dieu comme il l'a dit ici dans ses paroles. Que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il soit avec vous tous, et souvenez-vous de moi dans vos prières. Amen. Levons-nous pour prier. Père Céleste, nous venons ensemble vers toi. Nous te remercions du fond de nos cœurs pour ta sainte et précieuse parole. Seigneur, nous avons appris par tes paroles comment tu as utilisé tes serviteurs. Tôt le matin et tard le soir, au Seigneur, tu les as choisis. Au Seigneur, tu les as préparés pour toi de diverses manières. Ô Seigneur, Seigneur, notre prière est aussi pour notre cher frère lorsqu'il partira à nouveau pour porter ta parole à ton peuple pour appeler encore, Seigneur, ceux que tu veux appeler, Seigneur. Seigneur, tu l'as préparé, peut-être fait passer par certains chemins. Tu l'as rasé, Seigneur, comme nous l'avons entendu, pour qu'il puisse se présenter là pour la gloire de ton nom, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié, non pas un homme, non, Seigneur, mais pour que tu sois glorifié et que ta volonté soit faite. Ô Seigneur, ainsi ce soir, je te remercie et je te donne la gloire et nous venons tous à toi, Seigneur, et nous te prions, Seigneur, donne la grâce au Seigneur, donne la puissance, Seigneur, donne la réussite au Seigneur. Sauveur, notre désir est encore que ton nom soit glorifié, que ton message soit porté au loin parmi de nombreux peuples. Ô Seigneur, Seigneur, nous te remercions pour notre frère, car tu l'avais placé en bénédiction pour nous jusqu'à cette heure et aussi pour les heures particulières des derniers temps. Mais nous te remercions aussi, Seigneur, pour les actes puissants que tu as accomplis au milieu de nous. Nous t'adorons pour tout et nous louons ta grâce et ta fidélité. Nous savons, Seigneur, que ce que tu promets, tu le tiendras certainement, Seigneur. Sois loué, sois exalté, même en cette heure du soir. Seigneur, nous remettons notre frère entre tes mains, sous ta protection, Seigneur. Seigneur, prends-le et utilise-le, Seigneur. C'est notre prière dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton merveilleux et saint nom de Jésus. Amen.